Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Donc le voyage, l'idée c'est ça, c'est qu'on parle ensemble de voyage avec moi, Sonia Priva. Donc là on est sur un salon, le salon du voyage, tu es là avec tes livres, tu es voyageuse, carnétiste. L'émission s'appelle Regarde ailleurs, donc Regarde ailleurs c'est vraiment cette envie d'élargir sa vision sur soi, sa vision sur le monde, à travers des parcours de vie, à travers des expériences. Donc je donne souvent la parole à des réalisateurs, des écrivains, des photographes, des voyageurs ou des gens que je rencontre sur mon itinéraire. Et je t'avais déjà croisé sur différents salons, je connaissais ton travail de par internet. Donc Sonia, toi tu es carnétiste, c'est comme ça que je te définis, ou artiste?
Ouais, je suis plutôt artiste en fait, parce que je pars du principe que le carnet de voyage, à la base, je m'en suis servi comme les premiers voyageurs, c'est-à-dire c'est une mine d'informations. On dessine, on croque, on note des choses qui vont nous servir en fait à la réalisation de tableaux au retour en atelier. À la base, le carnet de voyage, c'est ça. C'est devenu un art à part entière, surtout avec le carnet de voyage de Clermont-Ferrand. Mais à la base, ça reste quand même un outil pour faire des tableaux plus tard.
Ok, donc on parlera de ça, mais dans carnet de voyage, il y a le mot voyage, donc je vais m'intéresser à ce mot-là, le voyage. Parle-moi de toi et ta rencontre avec le voyage, qu'est-ce qui s'est passé, à quel moment tu t'es dit, ben tiens, je vais sortir de mon pays, voir ce qui se passe au-delà des frontières, on va revenir sur ça, sur cet itinéraire personnel et ton lien au voyage.
Alors, j'ai toujours eu envie de voyager, hein, depuis que je suis gamine, j'avais pas des parents voyageurs. J'ai un mari qui a eu des gros problèmes de santé qui nous obligeait à voyager, comme j'ai toujours, à l'envers, c'est-à-dire vers le nord, là où il y a des hôpitaux, style au Canada, des choses comme ça. Mais depuis 2010, où tout est rentré dans l'ordre, on a pu commencer nos vrais voyages, le premier étant Zanzibar, juste pour le nom d'une part, et d'autre part, parce que comme je m'intéresse uniquement à l'humain, c'est le lieu Zanzibar où il y a le plus de mélange d'ethnies en termes de couleur de peau. Donc c'est ce qui m'intéressait, c'était parce qu'il y a évidemment des Africains, il y a beaucoup d'Arabes, il y a des Indiens, et ce mélange a donné des personnes absolument superbes, et j'avais vraiment envie de travailler là-dessus.
C'est vrai que le mot Zanzibar éveille quelque chose d'assez magique en soi. Donc Zanzibar, une petite île qui est au large de la Tanzanie, qui a été aussi tristement connue pour son histoire, hein, où c'était un des ports de départ des populations noires au temps de l'esclavage pour aller vers les pays des Émirats, je crois, ou l'Afrique, le Moyen-Orient.
Ouais, et du coup, Stone Town est réputé pour être, oui, la plaque, c'était la plaque tournante de l'esclavagisme avec, comment ils s'appelaient, Tip Tip, c'était le maître des esclaves en fait. Et c'est réputé pour ça. Mais bon, sans qu'on oublie évidemment cette particularité, on n'est pas dans l'obligation de se souvenir. On peut se souvenir, mais ça n'impacte en rien les touristes qui sont là-bas. Jamais.
Donc Zanzibar, c'est une des premières destinations, parce que tu disais, on a toujours voyagé vers les pays du Nord avant de faire des vrais voyages. Qu'est-ce que c'est qu'un vrai voyage? Qu'est-ce que tu entends par vrai voyage?
Un vrai voyage, c'est aussi revenir un peu vers mes racines, parce que j'ai des origines d'Afrique du Nord. Donc pour moi, le vrai voyage, c'était partir d'abord vers l'Afrique. Mais quand on part en voyage, finalement, on a mis le pied dedans, on ne peut plus s'arrêter. Parce qu'une fois à Zanzibar, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu beaucoup de banyans indiens, les commerçants. Donc j'ai dit à mon mari Dan, j'ai dit, là c'est mort, Zanzibar, oui, mais maintenant il faut aller en Inde. Mais quand on est parti en Inde, j'ai dit, ça va être crevant ce voyage en Inde, c'est fatigant. Donc toi, qui es un ancien hippie, je vais t'amener à Katmandou. Sauf qu'à Katmandou, je n'ai pas fait le rapprochement des années. Il n'y a plus un seul hippie, le seul qu'on a vu devait avoir plus de 90 ans. Mais voilà, on est tombé amoureux du Népal. Ce qui fait qu'en fait, moi je ne suis pas... pour avoir 40 tampons sur mon passeport, quoi. Donc Zanzibar 7 fois, le Népal 7 ou 8 fois, le Sénégal, j'en parle même pas. Bon, il y a d'autres destinations, mais il y a des destinations où on revient tout simplement parce qu'on se fait des amis et qu'on a envie de les revoir et parfois même de les aider. Et du coup, voilà.
Mais le voyage est quand même, enfin, en tout cas, ton travail artistique est profondément influencé par le voyage.
Complètement. Alors ma ligne artistique, si on peut dire ça, c'est quand même le personnage, c'est-à-dire la femme et l'enfant, uniquement du portrait. Pour mes carnets de voyage, bien évidemment, je fais quelques paysages par obligation, mais c'est quand même rencontrer l'autre. En fait, j'ai aucun scrupule à poser mes crayons pour discuter avec les gens ou rigoler avec quelqu'un. Quand je fais des portraits, je ne fais pas poser les gens, jamais, parce que je trouve compliqué le fait d'être en face de quelqu'un, surtout si on ne parle pas la langue. Ça devient compliqué, c'est mieux de s'asseoir à côté et d'entamer la conversation à côté de la personne, de bien la regarder et de faire son portrait. Plus ou moins ressemblant, ça c'est pas un problème, mais pas de face, jamais.
Qu'est-ce que c'est de voyager avec une boîte à crayons dans son sac? Ça change complètement, ça transforme complètement le voyage déjà pour toi, pour les gens que tu vas rencontrer et pour les gens qui voyagent avec toi.
Ouais, ça change tout parce que tous les pays que je fréquente, en tout cas, que ce soit en Asie ou en Afrique, tout ce qui est fait de la main est important pour eux. Donc ça n'a rien à voir avec la photo, on fait clic-clic. En fait, dès qu'on commence à sortir des crayons, comme tu dis, des pinceaux, de l'aquarelle, c'est magique pour eux, on travaille de nos mains, on est juste des artisans, on n'est pas des artistes pour eux. Et le résultat, finalement, leur importe peu, c'est plus la démarche qu'on a de créer sur place. Et ça, ça change tout, et pour moi, et pour ceux qui sont en face de moi.
Et avant de voyager, j'imagine que tu dessinais, tu peignais déjà. Donc c'était quoi tes sujets de prédilection avant de prendre la route?
Alors mes sujets de prédilection, c'était toujours les portraits. Mais c'est vrai que j'ai fait pas mal de paysans aveyronnais, par exemple. J'ai fait beaucoup... Je me servais de ce que j'avais sous la main, puisque nous ne pouvions pas voyager. Pour des raisons de vaccination, etc., on ne pouvait pas voyager. Donc je me servais de mon voisin Mohamed, qui était du Maroc. Je me servais de tous les gens. J'ai un fils de la Côte d'Ivoire, donc évidemment, il a été mon modèle, tout petit jusque grand. Mais c'était toujours du portrait. Je fais du portrait depuis que j'ai 3 ans, en fait.
Tu es quand même toujours attiré par cette dimension de l'ailleurs.
Ah, toujours l'ailleurs. Voir ce qui se passe ailleurs, c'est quand même voir qu'on n'est pas seul au monde. Et qu'on détient pas la, on détient rien quoi. En Occident, pour moi, on détient rien et on apprend beaucoup plus. En Afrique, par exemple, ou même au Népal, au niveau médical, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi. On apprend beaucoup de choses chez eux et on apprend qu'on n'est pas au bout du monde finalement, mais qu'on est chez des gens extraordinaires partout. Partout. Où, par exemple, je suis allée une seule fois, en mer Baltique. J'aurais jamais été là-bas si on m'avait pas proposé un travail sur une croisière. Et j'y étais un petit peu à reculons, parce que pour moi, c'est vraiment le nord là-bas, il fait froid et tout, c'est pas mon truc. Ben, j'ai été subjuguée quoi, par cet endroit, tout comme aujourd'hui, venir à Colmar. Colmar, c'est où ce truc? Je ne savais même pas. Je savais que c'était est, nord-est peut-être, mais... C'est séduisant, c'est magnifique. Donc partout où on va, les yeux grands ouverts, on va trouver des choses extraordinaires.
Ce que je trouve intéressant dans ton parcours, tu fais partie de ces gens qui finalement ont créé leur réalité et puis ont réussi à vivre d'une passion. Hein, je pense à cette phrase qu'on lisait des fois gamin, « Ne vis pas tes rêves, mais vis tes rêves ». J'ai l'impression que cette phrase, tu l'incarnes de par ce que tu crées aujourd'hui, ce que tu produis et la manière dont tu vis.
De tout temps, je n'ai fait que ça. J'ai eu cette chance d'avoir un mari qui travaillait déjà. Parce que ça n'a pas toujours été facile quand même. Quand on est artiste, on galère 10, 15 ans, parfois 20. Et puis après, d'un coup, ça déclenche, tu ne sais pas pourquoi. Mais j'ai eu cette chance d'avoir des parents super cool qui m'ont laissé faire ce que je voulais. D'avoir un mari qui m'a dit « mais continue, un jour ça marchera ». J'en doutais, mais pourtant c'est bien arrivé au bout d'un moment. Et j'ai cette chance, ouais, de tous les jours, je le dis tout le temps, je suis toujours en tongue. Ouais, je traverse la vie en tongue, c'est juste ma philosophie, c'est... Je traverse la vie en vacances, en fait, au milieu des pays, mais que ce soit dans les pays ou chez moi ou en France, je traverse la vie en vacances grâce à ma peinture, grâce à tout ce que je peux faire. Et ouais, je gagne ma vie comme ça. Je serai jamais riche, mais heureuse, ça c'est sûr.
Et peut-être donner des conseils, parce que je pense que pas mal de gens connaissent ton travail, je redis ton nom, hein, Sonia Priva, où tu peins essentiellement, où tu dessines des carnets, mais des portraits, beaucoup de portraits. Est-ce que tu as beaucoup de gens ou de jeunes qui viennent te voir pour te dire « moi aussi j'aimerais pouvoir voyager, moi aussi j'aimerais pouvoir développer une activité autour de ma passion qui est celle du dessin ?»
Alors justement, tous ces jeunes qui viennent me voir, je leur dis que c'est compliqué, et j'en rencontre qui ont un énorme talent. Le problème qui se pose à notre époque, c'est cette espèce de communication omniprésente, c'est-à-dire je leur dis assez durement que 10% de talent suffisent 40% de travail suffisent, mais qu'il faudrait avoir 50% de communication. Si on n'a pas les opportunités, par les réseaux sociaux, par les contacts, de se faire connaître, ça devient très compliqué de vivre de son art. On est quand même nombreux sur la place, et finalement, ceux qui s'en sortent le mieux, bien sûr qu'il faut avoir un peu de talent quand même, il faut avoir du travail, alors là, j'en parle pas, c'est énorme, mais si on communique pas, on sort pas. Enfin, moi-même, je suis restée longtemps enfermée dans mon atelier, parce que j'ai jamais demandé à exposer nulle part. Il a fallu que je fasse partie des aquarellistes français pour commencer à faire mes premières expos en France, assez loin ou à l'étranger. Et puis les carnets de voyage à Clermont-Ferrand, évidemment, qui m'ont vraiment donné un coup de boost. Mais il faut quand même communiquer beaucoup. Et ça, c'est dur, je trouve, pour les timides, dont je faisais partie. C'est très, très difficile.
Tu peux nous parler un peu de cet univers du carnet de voyage ?
Alors, l'univers, ouais, comme je le disais tout à l'heure, le carnet de voyage est devenu un art à part entière. C'est-à-dire que beaucoup de gens partent juste pour faire un carnet de voyage. Il n'y a pas de tableau à la clé après. Ils exposent juste leur carnet. Et c'est fantastique parce que le carnet de voyage, je fais moi-même des stages où j'emmène des groupes en carnet de voyage et je leur dis, voilà, vous ne verrez pas tout. Mais ce que vous allez voir, vous le verrez vraiment. Après, il faut rester vigilant parce que je vois quelquefois des carnetistes... des urban sketchers par exemple qui font des choses merveilleuses mais qui deviennent un peu comme ces photographes clic-clac-clic-clac qui prennent même plus le temps de parler avec les gens, qui sont à fond dans leur truc et ça c'est dommage. Je pense que carnet de voyage ça doit rester quand même une rencontre avec un pays, des traditions, la culture et l'autre surtout parce qu'on va voir l'autre, les paysages d'accord, bon moi c'est ce qui me branche le moins mais les paysages, mais rencontrer l'autre et les carnetistes il y en a beaucoup qui sont à la retraite aussi qui font du carnet de voyage mais rencontrer l'autre, il faut arriver à poser son crayon c'est pas que ça quoi le carnet de voyage c'est raconter une histoire donc si on veut raconter une histoire on peut pas se contenter de dessiner ou de peindre il faut parler avec les gens, il faut s'intéresser à la géographie, à l'histoire bon, ce sont des choses qui m'intéressent au retour, tout le temps. Mais il faut s'y intéresser.
Cette notion, enfin la rencontre, c'est aussi le sel du voyage finalement. C'est vrai qu'on va se souvenir peut-être d'une rencontre plus qu'un beau paysage. On va s'émerveiller devant un paysage, mais ce qui va rester vraiment gravé en son cœur, c'est une discussion, c'est un échange, c'est un partage, peut-être dans une chaumière quelque part aux confins d'une vallée himalayenne.
La nature est très belle, elle est si belle que je n'oserais pas m'y attaquer. Par contre, l'humain, je peux m'y attaquer et essayer de comprendre le destin de ces gens si différents et si proches de nous. Parce que même en Inde, où j'ai trouvé qu'on n'avait rien à voir, quoi, enfin vraiment, eh bien, ouais, si on s'approche des gens, on comprend qu'on est tous identiques, avec nos différences, nos envies, nos amours, nos difficultés, nos joies, nos peines. On est tous pareils. Et cependant, ça vaut le coup d'aller voir les autres et de s'y intéresser de très très près.
Donc quand je regarde un petit peu tes bouquins hein, sur la table, je vois qu'il y a pas mal de portraits d'Inde et le Népal. Le Népal a l'air d'être un gros coup de cœur quand même dans votre itinéraire de voyageur.
Alors le Népal, oui, le fameux sourire népalais, je croyais que c'était une blague. C'est faux. Et même lorsque il y a eu ce terrible tremblement de terre, là en 2015, j'en revenais, donc ça faisait 4 jours qu'on était rentrés. Je mettais mon point final au livre quand mon mari m'a appris qu'il y avait eu le tremblement de terre. Et la petite anecdote, c'est qu'on a un ami très proche là-bas, Prakash, et je n'ai pas pu le joindre sur son portable pendant 10 jours. Ça répondait jamais, donc j'ai eu très très peur. Et puis un jour, ça a sonné, donc je me suis dit, ça y est, il est vivant, il a rechargé son téléphone. Et j'ai dit allô, et la première chose qu'il m'a dit, c'est « Comment vous allez ?» Alors que lui, il vivait depuis 3 semaines avec sa femme et ses enfants, sous la pluie, sous une tente, en face de chez lui, dans un parc. Et la première chose qu'il demande, ces Népalais, c'est « Comment vous allez ?» Ils acceptent leur destin tel qu'il est. On a tellement à apprendre de ça, parce que nous, on est dans un système de consommation terrible. Donc là, la dernière fois qu'on y a été, c'est-à-dire là, il y a quelques mois, on a dormi chez lui. Et il n'y a pas de confort, mais pas parce qu'ils n'ont pas les moyens, c'est juste parce que ça ne sert à rien. Et ça, je le dis souvent, trop de confort ne rend pas intelligent. Eux, ils font tout ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont et se contentent de ce qu'ils ont. Et ça, c'est merveilleux. Se contenter de ce qu'on a, quelquefois se contenter de ce qu'on voit, mais pas avoir des tas d'objets. Et ça, c'est génial, quoi. Bah, au niveau matériel aussi, je dis ça souvent dans mes stages, je dis, mais arrêtez, parce que c'est lourd, le matériel. Moi, je suis, mais à minima... Les gens ne peuvent pas croire que j'ai une palette aussi petite, aussi peu de choses. On n'a pas besoin de confort, on a besoin juste de nos yeux, de notre main et notre sourire. Le sourire partout, parce que le sourire avec ça, on passe partout quand même. Hein.
Là, tu m'emmènes sur le terrain ou sur la thématique des enseignements du voyage. Hein. Donc, tu parles de ça, peut-être ce retour à l'essentiel. Développe un petit peu ce que toi, ou ce que pour vous, le voyage vous a apporté, vous a appris, vous a enseigné.
Alors, qu'est-ce que le voyage nous a appris? Mais c'est difficile à dire. Hein. C'est tout, en fait, tout. Si on ne voyage pas... Parce que voyager, c'est pas aller finalement d'un point à un autre. Ça, on peut le faire en avion, on peut le faire... N'importe qui peut le faire. Le voyage, c'est ne pas avoir de... On a une destination, mais ne pas savoir ce qui va arriver. Et c'est ce qui fait le sel de la vie, c'est ne pas savoir ce qui va arriver. C'est pour moi, c'est le destin. Pour d'autres, c'est le hasard. Mais quand même, chaque fois qu'on a des rencontres, c'est des opportunités incroyables. Mais même ici, dans un salon de voyage, où on va rencontrer des gens qu'on n'aurait jamais pu voir ailleurs, ça, c'est le destin. C'est merveilleux. Ça nous apporte tout.
Aniwa kerge, aniwa aniwa konge, aniwa kerge, aniwa kerge, aniwa aniwa konge, aniwa kerge. Samba al gestu arnal nyinga bany konga nyongi hon siyo. Samba al gestu arnal nyinga bany konga nyongi hon siyo. Aniwa kerge, aniwa aniwa konge, aniwa kerge, aniwa kerge. Aniwa aniwa konge, aniwa kerge. Samba ala gestu arnala, nyinga bany konga nyongi hon siyo. Samba ala gestu arnala, nyinga bany konga nyongi hon siyo. Samba ala, samba ala, samba ala, samba ala, samba ala, samba.
Parle-moi de cette notion de simplicité. Hein. Tu parlais de voyager de manière assez minimale, avec peu de matériel. Le Népal aussi est un pays où tu fais des rencontres qui t'enseignent ça, que la joie, le sourire dont tu parlais avant est souvent présent dans des endroits les plus pauvres ou dénudés matériellement.
Oui, le Népal, par exemple, est un des pays les plus pauvres du monde, bien plus qu'en Afrique. Et j'ai aimé le Népal parce que, contrairement à l'Inde, quand même, ils ont une espèce de solidarité entre eux, parce que le système des castes est moins prégnant peut-être qu'en Inde, qui fait qu'on n'a pas ce sentiment d'indifférence qui peut être quelque chose de positif. Moi, mon mari, il adore l'Inde parce que personne ne le voit et il adore ça. Mais bon, moi, personnellement, ça me choque un peu. Et c'est pour ça que je préférais vraiment l'Afrique, parce que l'Afrique, c'est le sens de la famille. On ne verra jamais, comme en Inde, une femme mourir au bord d'une rue ou un enfant rester sans manger ou sans bras parce qu'on l'a amputé. En Afrique, ça n'existe pas. Mais le Népal, justement, il y a des choses qui sont proches de ça, où il y a ce sentiment de la famille et ce peu de choses. Comme on l'a en Afrique, nous on a eu un réveillon en Afrique où la dame, elle a cherché partout une salade pour nous faire plaisir, quoi. Notre réveillon du 31 décembre, c'était une salade et elle avait mis tout son cœur à trouver cette salade. Et ben ça c'est ce que j'adore, quoi. C'est voilà. Et le Népal, c'est pareil. On a peu, mais ce qu'on a, c'est énorme. Parce que ce sont des gens, ils n'ont rien, ils vous donnent. Ils donnent tout. Et en plus, au niveau du travail, nous, en Europe, en Occident, on a tout, on ne peut rien faire. Eux, ils n'ont rien, ils font tout. On l'a vu dans la reconstruction des temples, les femmes, j'ai essayé de le faire, hein, je ne suis pas arrivée, les femmes qui traînent les briques, les enfants, tout le monde construit, il n'y a pas besoin d'avoir des papiers de ci, de là, tout est possible. Chez nous, tout est permis, rien n'est possible.
Pour en revenir à ton travail, donc si je comprends bien, sur place, c'est plutôt du croquis que tu vas faire et c'est le travail de ce que je vois exposé là, c'est plutôt sur en atelier quand tu rentres.
Voilà, donc moi je fais du carnet de voyage, surtout j'écris beaucoup. Je suis très très inspirée par les mots, plus par exemple que par les sons, même si j'adore enregistrer le muezzin ou des choses comme ça dans des pays, mais c'est les mots qui m'inspirent, les mots que j'ai eus avec les gens, les langues, j'essaye d'apprendre, par exemple j'ai appris le swahili pour le Zanzibar, j'adore le son des mots, et du coup j'écris beaucoup beaucoup des textes qui sont des fois illisibles mais où j'ai tout noté. Je fais mes carnets de voyage, beaucoup de dessins, un peu d'aquarelle, mais tout ça, ça va prendre forme au retour, ça prend un an en finale, un an pour finalement faire les tableaux que j'ai envie de faire, réécrire mes textes et éventuellement en faire un livre. Mais ça, c'est pas une obligation, ça c'est une envie de partage avec les autres, mais ça n'est jamais une obligation, c'est juste que c'est très amusant.
Après, t'es aussi souvent sur des salons, des festivals pour présenter ton travail, ça fait aussi partie de la vie de l'artiste.
Alors moi c'est très peu de salons en fait, j'ai beaucoup de mal avec ça, j'aime parce que je rencontre des gens, je vois ici à Colmar où je connais personne, 15 personnes sont venues me voir en me disant qu'elles me connaissaient et qu'elles étaient contentes de voir que j'étais là, donc ça vraiment ça fait vraiment très très plaisir. Mais après c'est quand même mon éditeur qui lui est sur tous les salons pour vendre les livres, après c'est commercial mais il adore son boulot, donc c'est un passionné du livre. Magellan et compagnie, je le cite quand même parce que Marc est un passionné qui ne fait pas ça que pour l'argent, parce que de toute façon les éditeurs ne gagnent pas beaucoup d'argent, mais il fait tous les salons. Moi après j'essaye de faire 2-3 expositions par an maximum et 2-3 salons maximum. C'est super, c'est très sympathique, mais c'est crevant et pendant ce temps-là on ne fait rien d'autre. Mais on rencontre du monde et ça, les gens sont heureux de nous rencontrer.
Sonia, parle-moi peut-être d'une rencontre ou de plusieurs rencontres dont tu parles dans un ou plusieurs de tes livres. Peut-être on va rester sur le Népal, comme on a commencé un peu à parler du Népal et qu'on disait que souvent le voyage, ce qui va nous nourrir, c'est les rencontres qu'on va y faire. Toi, tu prends le temps d'écrire aussi. Donc voilà, qu'est-ce que tu aurais envie de partager avec nous comme rencontre qui t'a inspiré ou qui t'a interpellé ou peut-être qui t'a transformé ?
Alors, je ne vais pas parler forcément du Népal pour les rencontres, je vais plutôt parler du Sénégal, où j'ai fait une rencontre incroyable. On partait en brousse, donc pour partir en brousse, on avait 17 km à faire et il fallait qu'on trimballe 60 litres d'eau. Donc là, on est obligé de prendre une mule qui va transporter de l'eau potable parce qu'on ne peut pas boire dans les marigots, nous, comme eux, ils le font. Et là, le monsieur qui devait nous accompagner n'était pas disponible, il a envoyé son fils. Et son fils, Mustapha, le portrait juste là, est un petit garçon d'une dizaine d'années qui a un regard vraiment très très dur envers nous, les Toubab, les Blancs. Et puis, pour moi, c'est un enfant de guerre. D'abord, il est habillé en tenue militaire. Il est flippant, honnêtement. 10 ans, flippant comme gosse. Et puis, on marche, lui, il traîne la mule. Et on s'arrête chez des catholiques qu'on avait envie de rencontrer. C'est un couple qui est malheureusement décédé maintenant, des gens très âgés qui avaient une ferme agricole, pour les jeunes, qui apprenaient l'agriculture. Et là, je sors mon matériel, pinceau, crayon. Et d'un coup, je vois ce petit Mustapha, sans jamais sourire, qui se sent investi d'une mission extrêmement importante pour lui. Il va à chaque fois me ranger mes pinceaux, mes crayons. Alors, il ne parle pas français, là-bas, ça ne parle pas français. Mais ce que je sais, c'est qu'il est d'une intelligence extrême, puisqu'il sait qu'à tel moment, j'ai besoin d'un pinceau fin, à tel moment, j'ai besoin de telle couleur. Et il va faire ça pendant tout notre périple. Tout ça pour, à la fin, être devenu un petit Mustapha enfant de 10 ans qui va se coucher sur nos genoux, à qui on aura acheté une tenue de foot en lui faisant croire que c'est pour notre fils, et qui va être... plein d'affection en fait, tout ce qu'il avait caché jusque-là. Et ça a été une de mes plus belles rencontres et je parle beaucoup de lui dans mon livre sur la Gambie, la Casamance. Voilà.
Si tu voyageais sans les crayons, quelle serait la différence ? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de partir sans...
Bien sûr, je crois que je peux voyager sans les crayons. Le truc, c'est que les souvenirs sont souvent tronqués. On oublie des choses ou on en rajoute. Le souvenir, c'est un truc très malléable. Notre cerveau, il fait ce qu'il veut. C'est pas mal aussi par moments. Mais oui, je peux voyager sans rien, hein, juste avec mon souvenir après, écrire une histoire très différente. C'est un petit peu dans l'optique du projet que je suis en train de réaliser maintenant, ça. C'est très différent.
Il y a des projets que tu réalises aussi avec d'autres artistes. Je pense au bouquin sur Zanzibar que tu fais avec le photographe Olivier Folmy.
Voilà, alors Olivier Folmy, ça faisait des décennies que je connaissais son travail. Ma fille, d'ailleurs, m'achetait tous les ans ses livres « Sagesse du monde ». Et ce que je savais, c'est qu'avec ce type-là, on avait le même regard sur les gens. Je voyais que les portraits qu'il faisait ressemblaient aux portraits que je faisais. Et j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui s'occupait de son film « Fleuve gelé » et qui m'a dit la même chose, qui m'a dit « mais vous avez le même regard ». Mais moi, je suis plutôt timide, j'aurais pas osé le contacter. C'est elle qui nous a mis en contact. J'ai écrit « Monsieur Folmy, je suis ravie d'avoir rencontré Céline qui s'occupait de votre film. » Et voilà, j'aime beaucoup votre travail, point. Et il me répond, mais moi aussi j'aime beaucoup ton travail, on part quand? J'ai dit, bon ben, je ne sais pas, c'était je crois ça en 2015. On devait partir en 2017, on avait beaucoup de boulot, on n'osait pas se le dire. Finalement, il dit, ça m'arrange, je ne vais pas partir. Et en 2018, nous sommes partis. Il m'a laissé le choix de la destination. J'avais très très peur qu'il m'emmène là-bas, vers le Ladakh, où il fait très froid, où je ne peux pas être en tong. Et il m'a dit, j'ai 10 ans, Zanzibar. Et incroyable, je connaissais un village que j'adore qui s'appelle Djambiani et il le connaissait aussi. Et voilà, nous sommes partis à Djambiani, on est restés dans une maison à deux étages, chacun à son étage. On n'a jamais travaillé ensemble, on se voyait que petit-déj à 5h du mat, à midi et le soir pour de longues discussions et de longues boissons aussi pour discuter. Et c'est au retour qu'on a vu qu'on avait travaillé sur exactement les mêmes sujets. Les mêmes personnages, les mêmes personnes. J'avais fait des portraits, des silhouettes, et c'était toujours... Il avait travaillé sur les mêmes choses. C'est pour ça qu'on en a fait un livre. On partait en se disant, on va s'inspirer, peu importe, même si on n'en fait rien, même si on ne travaille pas, c'est pas grave, on part et on verra. Voilà.
Quels sont les retours que tu as des gens qui s'arrêtent devant tes bouquins et qui tournent les pages ?
Alors, ben, j'ai beaucoup de félicitations pour mes portraits, quoi. C'est vraiment... Et alors, on parle souvent des trois carnétistes. Donc, c'est vraiment très, très honorable pour moi. Je suis ravie. Hein. Donc, on me dit, ben, y a vous, y a Stéphanie Ledoux. Ben, oui, forcément, elle a un talent fou et j'aime beaucoup son travail. Et Titouan Lamazou, mais ça, j'aime moins parce que Titouan Lamazou, il a une relation à la femme qui est très différente de ce que je fais moi en tant que femme et de ce que certainement Stéphanie doit faire aussi quand elle fait les portraits de femmes. Donc, j'aime moins qu'on me compare à lui. Mais voilà, les trois carnétistes, j'ai dit, mais merveilleux, quoi. C'est deux célébrités plus moi, ben, c'est génial, quoi.
Qu'est-ce qui fait que les gens sont touchés par les portraits, en ton avis ? Pourquoi est-ce que les gens sont là, regardent et se sentent touchés par ça ?
Je pense que dans mon cas, les gens sont touchés par les regards, en fait. Le regard que je donne aux gens. Et en fait, c'est parce que quand je travaille sur un portrait, je leur invente une vie. Même si je les connais, je suis dans leur destinée. J'essaye de raconter quelque chose au travers de leur regard. Et je pense que c'est ce qui touche les gens, ce sont ces regards.
Est-ce que derrière ça, il n'y a pas une soif de lien à l'autre, où j'ai l'impression qu'on vit dans un monde justement où on s'éloigne, on n'est plus tellement dans cette forme de complémentarité, de solidarité, et finalement, comme tu dis, on est touché par le regard des autres parce que quelque part, ça nous relie dans notre humanité.
Ouais, je pense qu'on est relié par le regard et pas que, parce que tous les dessinateurs savent que c'est la bouche qui en dit le plus, au sens propre comme au sens figuré, c'est-à-dire qu'en dessin, c'est l'endroit le plus difficile à dessiner. C'est le seul endroit mouvant, c'est ce qui va donner l'expression. La dureté, la douceur, la joie. Et donc, oui, tout ça, je pense que maintenant, les gens ont besoin de se rapprocher autrement que par un écran. Parce que tout ce qu'on voit, c'est que de l'image, réseau social, télévision, écran. Et le dessin, c'est autre chose. Ça laisse une part à l'imaginaire, surtout quand on est comme moi dans l'aquarelle, plus des zones libres où les gens peuvent rentrer. Je pense que ça, ouais, c'est ce qui plaît le plus.
Sonia, on va terminer là-dessus. Qu'est-ce que c'est que voyager ? Qu'est-ce que ça apprend ? Et pourquoi tu conseillerais aux gens de prendre la route ? Enfin, voilà, qu'est-ce que tu dis à ceux qui hésitent peut-être à partir ?
Alors, n'hésitez jamais à partir. Soyez sûr que 3 jours avant le départ, vous allez avoir une terrible angoisse de savoir où vous allez tomber. On a toujours la sensation, selon où on va, qu'on va tomber chez des sauvages, quoi. Et c'est pas le cas, hein. C'est des gens aussi civilisés que nous, voire beaucoup plus. Alors surtout, n'hésitez jamais à partir, même loin, même seul. Honnêtement, je n'ai jamais eu aucun problème dans n'importe quel pays où j'ai été. et puis rencontrer les autres et partager, parce que eux aussi ils ont envie de savoir comment on est, comment on vit, et ça les rassure de voir qu'on est si proches.
Sonia, merci.
Merci à toi.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.